Paradis 2. Paradis 2, c'est la suite de Paradis 1.
On ne peut rien vous cacher.
N'est-ce pas ?
C'est en tout cas le même livre qui se continue et qui chaque fois prend des formes un peu différentes, mais des formes de contenu. C'est la même forme, sinon, c'est-à-dire un livre écrit sans ponctuation, c'est du moins ce qui saute à l'œil. On me demande toujours pourquoi il y a tous ces mots sont-ils agglutinés les uns aux autres sans ponctuation. Et parce que c'est un travail sur le souffle, sur la respiration, sur vraiment la petite unité qu'est le mot, la syllabe. Et c'est mon travail fondamental, c'est ma langue fondamentale, d'où je peux tirer éventuellement des mises en scène, des romans plus narratifs et plus explicites. Mais là, c'est vraiment ce que je fais jour après jour depuis déjà une dizaine d'années.
Et vous continuez ?
Oui.
Donc il y aura plusieurs paradis, il y aura une suite de paradis.
Il y en aura au moins trois, je ne sais pas. Enfin, ça sera probablement interrompu par la mort de l'auteur.
Oui, non, c'est effectivement, enfin,
ça le gâche, Jean-Pierre.
Je vais en parler de lui, mais c'est la question que je me suis posée, très banale, c'est que ce livre est moitié moins gros que Paradis 1. Et je me demandais si justement, vous n'étiez pas en train d'interrompre l'expérience pour publier quelque chose de plus petit cette fois-ci.
Non.
Ou est-ce que justement, vous allez continuer, enfin, est-ce que c'est plus petit parce que le feuilleton va se poursuivre
par Paradis 3, Paradis 4, plus court, et... il m'a demandé 5 ans de travail, et c'est un livre qui a 120 pages. Mais où je suis content parce que je dirais que je n'ai pas un mot ou un son à changer. Et pour arriver à ça, c'est tout, il faut prendre le temps.
Mais alors justement, comment vous travaillez sur un texte pareil ? Vous l'écrivez, vous le relisez, vous le corrigez, ou au contraire, vous travaillez avec des principes relevant, disons, pour aller vite, de l'écriture automatique ?
Non, sûrement pas automatique, parce qu'il faut donner l'impression que tout se déroule de façon quasiment automatique.
Oui. C'est ça, pour c'est la suite de la pensée, c'est le mot.
Il ne faut surtout pas écrire de façon automatique. Vous savez que l'expérience surréaliste de ce point de vue s'est traduite de l'aveu de Breton même par un échec, c'est-à-dire qu'en voulant se substituer à l'association libre en psychanalyse, cette écriture automatique finalement s'est engorgée à donner quelque chose de très décevant et qui s'est vite arrêté comme expérience. Là, au contraire, c'est une expérience très lente, très consciente, très lucide, très, très mesurée, et qui correspond à une rêverie profonde, une rêverie métaphysique, avec des éléments de critique sur la civilisation dans laquelle nous sommes, mais c'est une rêverie prise vraiment en profondeur et qui atteint une sorte de sommeil profond. Je ne crois pas qu'on peut lire ce livre si on n'a pas d'abord préalablement bien dormi, si on n'est pas vraiment à l'écart de toutes les informations et de toute la vie sociale. C'est un livre très antisocial.
Oui. Alors, certains passages, par exemple, le début s'est articulé autour d'un mot. Enfin, je vais essayer peut-être d'en lire. Il y a tout ça, moi, en vérité, presque rien, côtoiement d'illusions, couverture du cœur, d'illusions. Aujourd'hui, j'écris aujourd'hui, et demain, j'écrirai aujourd'hui, et c'est vraiment aujourd'hui, et rien qu'aujourd'hui, on devrait l'écrire aujourd'hui.
Voilà, vous y êtes presque, n'est-ce
pas ?
Il faut le lire.
C'est encore un effort.
Pas du tout ça. Le principe de récitation est un principe prosodique
très
simple. C'est celui finalement du chant grégorien, vous savez, le cantus firmus, avec une voix principale et des voix qui viennent se greffer sur cette voix principale. Et donc, il faut le lire de façon très monocorde, linéaire. Tout ça, assez vite d'ailleurs, n'est-ce pas ?
Alors, allez-y.
Oui. Presque rien, côtoiement d'illusions, couverture du cœur, d'illusions. Aujourd'hui, j'écris aujourd'hui, et aujourd'hui, j'écris le cœur d'aujourd'hui. Et hier, j'écrivais aujourd'hui, et demain, j'écrirai aujourd'hui. C'est vraiment aujourd'hui, et rien qu'aujourd'hui. On devrait l'écrire aujourd'hui, différentes manières d'être à jour en suivant ces nuits dans la nuit. Vous voyez, il y a une toute petite modification, c'est-à-dire que, et ça, c'est un des principes du livre, c'est qu'il a l'air de courir comme ça, par répétition, un peu incantatoire, et que de temps en temps, il y a une sorte de lapsus volontaire. Par exemple, d'aujourd'hui, on passe à aujourd'hui, on joue sur les mots. C'est pas le principe du mot-valise, par exemple, comme chez Joyce. C'est une façon de faire déraper la lettre, par exemple, par un petit lapsus, et qui fait tourner comme ça la phrase brusquement. Un faux lapsus, un lapsus volontaire, qui fait avancer comme ça le récit. Et vous avez ce principe d'écriture, vous le trouvez dans des textes très beaux, d'ailleurs les plus fondamentaux, comme ceux de Samuel Beckett, par exemple.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Voilà. Etc.
Oui, chez Beckett aussi, le rôle de la musique, enfin,
Je crois que quelqu'un comme Beckett fait depuis des années et des années ce travail fondamental sur la langue, c'est-à-dire sur un ramassage extrêmement précis et squelettique du langage, avec un contenu qui est un contenu pour lui d'enfer, un peu d'absurdité, de dépression profonde. Alors que ce livre, qui emploie la même technique, c'est ça qui est curieux à observer, la même technique fondamentale est un livre d'euphorie tout le temps et de jouissance. d'espérance et d'affirmation.
Il y a des thèmes aussi, parce que vous utilisez l'actualité. Je vais lire un autre passage très mal.
Il y a un passage sur Descartes, je dis ça, je le recherchais à l'instant.
C'est un passage ironique.
Oui, c'est un passage ironique sur le grand écrivain. Enfin bon,
ce qui est ironisé constamment, c'est la société de publicité dans laquelle nous sommes, la société de spectacle.
Oui, alors, vous écrivez par exemple, pour les nationalisations, les 35 heures, les 30 heures, la disparition des heures dans les heures, pour la paix, la sécurité, le renouveau dans la stabilité, le changement.
Il faut le lire comme ça. C'est-à-dire, c'est la ritournelle des informations et politiques, politico-sociales, sociales-financières, financières,
militaires. Mais alors là, vous ne travaillez plus sur les phonèmes, vous travaillez sur des thèmes, sur des mots qui ont un sens.
Je travaille sur l'extrême condensation, la répétition des informations, pour montrer l'absurdité d'un jeu qui tourne en rond, qui se mord la queue. C'est-à-dire que finalement, tout est dit, le contraire de tout, et on arrive en emballant ces références à faire sentir l'aspect mécanique de la civilisation dans laquelle on est.
En disant cela, on a l'impression que, au fond, vous cherchez à capter le bruit de la société.
Oui, c'est ça.
C'est un livre de bruit. Mm-hmm. Voilà. Donc, une série de bruitages, pourrait-on dire.
C'est-à-dire, j'essaye de détruire le bruit. J'essaye d'introduire dans ce bruit un silence fondamental, une sorte d'atmosphère de plan comme ça, très très calme. C'est un livre de méditation. C'est-à-dire qu'il doit déboucher sur la lumière, sur le silence, sur la concentration, sur la joie, sur l'extase même. Pourquoi pas. Et à l'intérieur de ça, il y a tout ce bruit social qui est chaque fois repris et évacué.
Alors là, vous êtes devant le problème de l'écrivain, par exemple, qui veut rencontre de la bêtise et qui est obligé de faire place à la bêtise, et qui quelquefois écrit bêtement lorsqu'il ne réussit pas son texte. Est-ce que, écrivant comme ça pour capter le bruit, finalement, il n'y a pas dans votre texte quelque chose de mimétique, c'est-à-dire un écho du bruit de la société ? Est-ce que ce que vous venez de souligner là, ce sont vos intentions, ce sont vos intentions, à savoir la joie, l'euphorie, etc. Le problème est de savoir si les techniques et la rhétorique, car il y a une rhétorique qui est évidente dans le texte, on pourrait d'ailleurs le aujourd'hui relève d'une certaine rhétorique que vous appelez lapsus. Il y a la rhétorique des séries qui est très très importante, la rhétorique des permutations de mots, la roulette devient la moulette et la moulinette devient la roulinette, etc.
Et la faute de frappe devient la faute de trappe.
Alors, est-ce que cela renvoie au bruit social en le défaisant, ou bien est-ce que ça renvoie au bruit social en l'imitant et en lui faisant miroir?
Non, je crois que ce que vous appelez le bruit social, c'est-à-dire cette énorme mécanique de représentation et de bombardement d'informations et de publicité et de rengaine, est quelque chose qui dit toujours autre chose et qu'on peut déchiffrer dans les dérapages, entre les lignes. Il y a un désir de se cacher de cette espèce de prise en main par la société des individus. Et ce désir est un désir sexuel, c'est un désir de les contrôler, de les enrôler. Et j'essaye simplement, en répétant cette bêtise, de la montrer en train de dire tout à fait autre chose que ce qu'elle prétend dire.
Un désir sexuel qui n'est pas tellement formulé. Enfin, il y a un passage érotique, je ne vais pas le lire, comme ça on peut l'imaginer.
C'est un désir de désexualisation, je crois. Nous vivons une société qui est engagée maintenant techniquement et scientifiquement. Regardez tout ce battage autour de la gynécologie intensive, des hommes enceintes, etc. Dans une entreprise de désexualisation massive.
Le passage érotique que vous avez composé.
Et c'est un livre, au contraire, qui est très violemment érotique, incestueux même dans une de ses scènes, pour justement faire apparaître à quel point l'érotisme aujourd'hui va vers une clandestinité vraiment souterraine, très et souveraine.
Salgas, Jean-Pierre.
Une question que je voudrais vous poser. Enfin, vous parliez très justement de ce que vous voulez faire là et de la société. Enfin, je veux dire la société, les messages publicitaires où on dit tout et le contraire de tout, etc. Mais ce qui fait votre spécificité, je crois, comme écrivain, enfin en dehors de ce texte que je trouve sublime, c'est aussi justement que dans ces messages publicitaires, vous y êtes. C'est-à-dire, ce qui me semble faire votre spécificité unique totale dans la littérature française aujourd'hui, c'est cette tentation, cette tentative que vous avez de tenir les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire d'être complètement vous. Même de vous faire message publicitaire, de vous faire ectoplasme télévisuel d'un côté, avec une masse d'apparitions, tout genre comme celle d'aujourd'hui, par exemple, d'articles dans des magazines les plus divers, d'écrire par ailleurs Paradis, avec, je dirais, tous les stades intermédiaires, et je classerai un peu vos romans comme Femme ou Portrait du jour dans les stades intermédiaires entre les deux. Alors, moi, je me demande, je dis ça parce que c'est quand même l'une des grandes sources, dans dans le questionnaire de Marcel Proust auquel vous répondez à la fin de Théorie des exceptions, vous dites « je ne voudrais pas laisser de malentendu ». Or, vous savez comme moi que l'une des grandes sources de malentendu qui pèse sur vous, ce qui fait que personne ne comprend rien, c'est justement que vous êtes peut-être, enfin je crois aujourd'hui, le seul écrivain à tenter cette expérience, de couvrir la totalité du champ. Bon, et d'être complètement, enfin, d'aller jusqu'à se faire, encore une fois, clip publicitaire, à la limite d'un côté, et de l'autre côté, de produire avec Paradis le texte le plus beau qui a été produit ces 20 dernières années, et qui est justement la démolition et la destruction, la démonstration de tout ça.